France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée, réalisatrice et autrice, a choisi d'évoquer un texte que, pour sûr, c'est en tout cas mon cas, vous n'avez pas étudié lors de vos cours de philosophie. Un texte pourtant court, accessible, qui remet en question tout ce que vous avez appris durant ces mêmes cours de philosophie sur les fondations de nos sociétés politiques dites égalitaires et universelles. Ce texte, c'est le contrat racial du philosophe Charles Mills.
Le libéralisme racial tel que j'utilise ce terme est fondamentalement un libéralisme façonné par la domination raciale. Pensez donc au libéralisme racial comme analogue à ce que les féministes considéraient comme une forme patriarcale de théorie libérale, où le libéralisme a été façonné par son évolution dans les sociétés de domination masculine. Cela signifie donc que des termes cruciaux, des cadres cruciaux, des valeurs cruciales, ont tous été imprégnés par le fait de la domination masculine et la nécessité de justifier la subordination de la moitié de la race humaine. Et j'envisage un libéralisme racial qui s'est formé dans la période d'expansionnisme européen, où les principaux théoriciens libéraux sont complètement d'accord avec cette politique d'expansionnisme européen. Et il est alors impossible d'appliquer les théories libérales de la même manière aux personnes de couleur et aux Européens. Car alors, évidemment, cela signifierait que les processus dans lesquels vous êtes impliqué, votre conquête des peuples, l'expropriation, l'esclavage racial, tout cela est incompatible avec un libéralisme qui inclut la couleur. Nous obtenons un libéralisme racialisé. Il s'agit donc d'un libéralisme racial dans le sens où les termes cruciaux des théories libérales sont réécrits par la race, afin que le privilège des Européens au détriment des personnes de couleur ne semble pas être une incohérence, car les personnes de couleur ne sont pas considérées comme des égales du point de vue moral.
Bonjour Amandine Gay.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes réalisatrice, productrice, activiste, autrice. Après votre autobiographie, Une poupée en chocolat parue en 2021 et paru cet essai qui est aussi une mention autobiographique, Vivre, virgule, libre, c'est aux éditions de La Découverte. Je suis ravie de vous recevoir. On vient d'entendre la voix de Charles Mills, l'auteur que vous avez choisi d'évoquer avec son livre Le contrat racial. C'est un auteur, je vous l'ai dit avant l'antenne, dont je n'avais jamais entendu parler. Comment vous l'avez découvert? Pourquoi vous l'avez choisi? Comment vous expliquez que j'en ai jamais entendu parler? Enfin, on va aborder toutes ces questions-là. Mais déjà, pourquoi Charles Mills?
Parce que Charles Mills m'a vraiment, on va dire, sauvé intellectuellement, ou en tout cas m'a permis de recoller toutes les pièces du puzzle qui me travaillaient depuis presque, je pense, c'est le collège où on commence à nous parler du siècle des Lumières, à l'école en France. Et c'est vrai que moi, pendant des décennies, je n'arrivais pas à réconcilier les idéaux des Lumières, et puis plus tard, quand je vais faire de la philosophie politique à l'école, la théorie du contrat social, etc., avec la pratique politique de l'époque, qui est la traite transatlantique, l'esclavage. Et très souvent, quand on soulève ces points en classe avec ses professeurs, ce que font beaucoup d'étudiants noirs, on va vous répondre « Oui, mais c'était des hommes de leur époque, ou c'est un peu une petite contradiction comme ça sur le côté de ces idéaux qui, normalement, tendait vers l'égalité. » Et donc, moi, ce qui a été génial le jour où j'ai lu Charles Mills, c'est que soudain, quelqu'un m'expliquait de façon claire et limpide que non, il ne s'agissait pas d'une petite contradiction sur le côté, mais qu'il s'agissait au contraire des fondements de la pensée théorique, politique, moderne, occidentale, que la race était au cœur de cette pensée. Et donc ça m'a vraiment éclairé, et ça m'a éclairé, on va dire, dans le calme aussi, parce que moi, la première personne qui m'a permis de raccrocher ces morceaux du puzzle, c'est en fait un philosophe français qui s'appelle Louis Salamolin, qui, en 87, avait publié un livre qui s'appelle Le Code Noir ou le Calvaire de Canaan, et puis qui a récidivé en 92 avec Les Misères des Lumières, sous la raison l'outrage. Mais lui, c'était un pamphlétaire. Et du coup, je me suis sentie légitime en le lisant parce qu'il est très, très remonté contre les philosophes.
Ça légitimait votre colère, en fait.
C'est ça. Mais c'était pas non plus un pamphlet. Du coup, on se dit, est-ce que c'est vraiment de la théorie politique sérieuse?
Il y a toujours cette suspicion. C'est-à-dire que dès qu'on est en colère, est-ce que là, on pense bien?
Exactement. Et donc, du coup, c'est aussi ça que m'a amené Mills. C'est une démonstration calme, implacable, carrée, avec un peu d'effronterie critique. Hein. C'est quand même voilà, un penseur noir, donc il y a des petites pointes d'humour, il y a de la sagacité.
Il y a de l'ironie.
Mais c'est très sérieux. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ah oui, non, j'avais raison de penser qu'il y avait un problème. Et donc, oui, ça fait toujours du bien quand on lit des auteurs, des autrices qui vous rendent légitime des incohérences, qui vous permettent d'étayer votre connaissance, mais qui le font avec une telle limpidité que c'est un peu comme quand on vous explique un tour de magie. Et c'est pour ça qu'il faut jamais expliquer les tours de magie. Parce qu'en fait, vous êtes là, vous comprenez pas ce qui s'est passé, et dès que la personne vous a expliqué le truc, vous dites, ah bah oui, mais oui, c'est bien sûr.
Et c'est presque trop simple même, non?
Exactement.
On est un petit peu... ébahi quand moi j'ai lu grâce à vous le contrat racial de Charles Mills dont on parle aujourd'hui, je me disais mais c'est évident. Et lui-même d'ailleurs parle d'évidence à certains moments du texte, il dit c'est à la fois évident et non évident. Mais et alors comment vous expliquez cette évidence qu'on ne dit jamais, à savoir effectivement qu'on connaît, vous l'avez très bien dit, qu'on connaît en fait des faits historiques, l'esclavage, les codes noirs, les lois sur les Indiens, mais qu'en même temps on n'arrive pas à expliquer qu'on fasse le lien avec la fondation de nos sociétés politiques et notamment les idées d'inégalité, les critiques de l'universalisme.
Ben ça, c'est une autre dimension du livre de Charles Mills que j'adore, c'est que lui, il vient aussi examiner comment la suprématie blanche comme régime politique vient affecter la cognition du groupe majoritaire. Et va donc, du coup, affecter aussi la connaissance en elle-même ou, du coup, la théorisation politique même. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que très souvent, on va s'intéresser, que ce soit dans les milieux militants ou académiques d'ailleurs, hein, on va s'intéresser plutôt au côté théorique, mais très rarement à la question de la cognition et donc aussi au côté plus émotionnel, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens, etc. Et donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, il est aussi dans un travail de situer et il s'inspire, il le cite dans ses livres d'ailleurs, hein, il s'inspire des travaux des féministes, des philosophes féministe, en particulier de Pateman, qui était celle qui avait écrit avant le contrat racial, le contrat sexuel.
On est à la fin des années 80, 88, je crois.
Exactement. Et donc, du coup, c'est aussi une démarche de se dire non, les philosophes ne sont pas séparés du reste du monde. Ce ne sont pas des personnes qui théorisent de façon abstraite. Ils théorisent à partir de qui ils sont. Et donc, ce que fait aussi Mills, c'est de recontextualiser les philosophes du contrat social, de les remettre dans leur époque et même de les remettre dans leur pratique propre. De rappeler qu'un certain nombre de ces philosophes sont personnellement investi dans la traite transatlantique parce qu'ils ont des actions dans des compagnies qui transportent du cargo humain, etc. où ils ont même des opinions sur qui sont les êtres humains et qui sont les non-humains. Et donc, en fait, leurs théories sont bien entendu, on va dire, imprégnées de toute leur vision du monde. Et moi, c'est ça aussi que je trouve utile. C'est de se dire, les philosophes sont d'abord des êtres humains. Et dans ce contexte très précis, ils sont des bourgeois blancs occidentaux du 16e à 18e, début 19e siècle, voilà, si on va jusqu'à Kant. Et donc, ils théorisent à partir de cette situation très spécifique, qui leur donne une vision du monde très spécifique, qui va ensuite avoir un impact sur la façon dont ils vont développer des théories comme celle du contrat social.
Alors, le livre de Charles Mills, Le contrat racial, il est paru en 1917. Vous l'avez découvert quand, Amandine Gay?
Ben moi, je l'ai découvert en 2015.
En 97, vous aviez quoi, 13-14 ans?
Voilà, donc alors, j'étais
donc
vraiment
vous étiez
pas...
au collège. Voilà, vous étiez pas. Et puis, il faut dire aussi qu'effectivement, c'est un auteur jamaïcain, un philosophe jamaïcain. Donc, quand il a écrit ça, c'était d'abord en anglais, en fait, pour l'université américaine. Et il a d'abord été lu par les milieux anglo-saxons.
Exactement. Alors, c'est sûr que voilà, moi, à 13 ans, peut-être je commençais à entendre parler du siècle des Lumières avec plus de détails, mais certainement pas de Charles Mills. Et en plus, effectivement, là, il y a ce deuxième enjeu qui est de quelles sont les pensées, surtout quand elles sont subversives, qui arrivent jusqu'au monde francophone. Et donc, ce qui est hyper intéressant avec le contrat racial, c'est que quand il est finalement traduit en français en 2023, donc quand même, attention, je ne suis pas une grande matheuse, mais près de 30 ans après sa publication.
25 ans, en tout cas.
Voilà,
c'est déjà une date 30, 25 ans.
Déjà, au moins ça. C'est au Québec. Et donc ça aussi c'est intéressant, de dire quels sont les espaces qui s'approprient certaines pensées et quelle est ensuite la diffusion de ce livre en France hexagonale et dans les milieux de la philosophie. Ça, c'est aussi une question qui se pose beaucoup. Donc moi, c'est sûr que quand je suis au Québec en 2015 et que je reprends mes études, donc j'ai un master de sciences politiques en France et puis j'ai repris mes études en 2015 au Québec parce que je voulais immigrer. Bon bref, donc là j'ai fait une maîtrise de sociologie et en même temps, pendant ma maîtrise de sociologie, j'ai pris des cours sur la politique autochtone parce que j'avais envie, on est quand même dans une colonie de peuplement au Canada, et donc j'avais aussi envie de comprendre mieux l'espace où je me trouvais. Et donc voilà, dans des travaux qu'on devait rendre, etc., je me suis retrouvée à entendre parler du contrat racial. Et
on vous en parle, un de vos professeurs vous en parle, c'est-à-dire que ça fait partie du corpus.
C'est ça, ou en tout cas c'est recommandé. Je ne sais pas s'il était dans le syllabus, mais je donne le sujet sur lequel je veux travailler pour la fin du semestre. Il me dit, je pense que si vous n'avez pas lu Charles Mills, ça va vous intéresser.
Donc ça fait partie quand même d'une référence. C'est pas un livre sur lequel vous êtes tombé au fin fond d'une librairie.
Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, je veux dire, c'est un livre majeur.
Voilà, c'est une référence. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire que quand c'est sorti, c'est devenu un best-seller universitaire. C'est-à-dire, une référence avec des prix, des distinctions. Ce qui rend la chose, la non-connaissance, du côté de l'Europe assez frappante.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans l'édition française, il y a même la préface pour les 25 ans du livre, écrite à nouveau, du coup, par Charles Mills. Donc, moi, je prends le livre, et là, effectivement, pareil, moi, il me tombe pas des mains. C'est-à-dire que je le lis, et puis je le lis d'une traite, parce que, effectivement, c'est vraiment je sais pas comment expliquer ce sentiment de clarté. Quand soudainement, je vous dis vraiment, c'est quelqu'un qui arrive avec la dernière pièce du puzzle, quoi. Et vous vous dites, ah oui, donc c'était donc ça, la race sous-tend, en fait, les théories du contrat social, si on veut le dire rapidement. Elle est en tout cas omniprésente. Et ce qui est fascinant, c'est comment cette omniprésente va finir par être effacée au fil du temps. Et on va donc masquer la race pour parler d'un contrat social. Et donc lui, ce qu'il fait dans toute sa démonstration vise à montrer qu'il y a un contrat préexistant, d'une certaine façon, qui est le contrat racial et qui est cette division de l'humanité entre humains et non-humains. Parce qu'en fait, là où on comprend pas les principes d'égalité, les idéaux en lien avec, du coup, le contractualisme et puis les philosophes des Lumières, etc., c'est que normalement, les êtres humains, alors attention, les philosophes de profession, ne vous fâchez pas, mais donc les êtres humains sont dans un état de nature, et puis à un moment donné, ils vont s'associer et ils vont décider de faire société, ils vont sortir de cet état de nature. Et c'est en réfléchissant à cette espèce de moment de comment les sociétés deviennent sociétés que les philosophes développent les théories du contractualisme. Voilà, ça vient d'abord, ça existe chez Platon, tout ça, mais il y a une théorisation moderne du contractualisme autour de quand est-ce qu'on devient société. Et en fait, finalement, ce que Charles Mills révèle, c'est qu'il y a une petite astérisque sur comment est-ce qu'on devient société et comment est-ce qu'on peut être égaux. Parce qu'en fait, on devient une société à partir du moment où on est des individus. Et au moment où se développent les théories du contrat social, il y a déjà toute une partie de l'humanité qui a été exclue de la notion d'individu ou du statut de personne. Et en fait, ces personnes-là ont été exclues à partir des conquêtes coloniales, des phases exploratoires, mais qui ont toujours été dans une perspective de conquête. On n'était pas dans des voyages pour découvrir le reste du monde. On veut étendre la puissance des empires européens. Et donc, dans ces voyages-là, se pose très vite la question de ces peuples qui habitent les territoires qu'on veut conquérir. Parce qu'on les rencontre assez rapidement, les explorateurs les rencontrent rapidement. Et donc, dans cette définition de qui sont ces peuples, arrivent énormément de controverses, de débats, souvent d'ordre religieux d'abord, et puis qui vont ensuite devenir politiques. Moi, c'est vrai que dans mon livre, je fais commencer ces débats avec la controverse de Valladolid. Mmh. Mais ça commence avant. Donc, Valladolid, c'est 1550. Mais moi, je choisis ce moment-là parce que c'est quand même un moment, pour moi, vraiment fondateur de l'histoire européenne, où on se demande si donc les autochtones des Amériques d'un côté et les Africains de l'autre sont des êtres humains, spécifiquement s'ils ont une âme, pour savoir si on peut donc en faire des bons chrétiens, et dans ce cas-là, quel va être leur destin. C'est-à-dire que si vous pouvez devenir un chrétien, vous êtes de fait quand même un être humain, mais un hérétique. Donc soit vous acceptez la chrétienté, soit vous mourrez. Et donc ça, c'est encore une fois, très gros raccourci, mais bon, si vous acceptez, vous restez en vie. Et donc ça, ça va donner lieu au génocide des autochtones des Amériques. Mais comme on est toujours dans les conquêtes coloniales, dans une perspective d'expansion, d'exploitation de ressources, donc d'augmenter son capital, il faut bien faire fructifier ces terres. Et donc là se pose la question pour un deuxième groupe, qui sont les Africains, dont on va se dire, bah, on peut déporter ces Africains pour les faire travailler dans les Amériques. Est-ce que les Africains ont une âme ? Réponse de la controverse, c'est très rapide, mais donc la réponse, c'est non. Et à partir de là, on va donc pouvoir codifier sur le statut de ces non-humains. Donc c'est ça, en fait, que rappelle Mills.
Ça veut dire que les théories du contrat social qu'on voit notamment, en fait, fructifier, apparaître avec Hobbes, donc on est en 1651, et après, il y a Locke, il y a Rousseau, il y aura aussi Kant, et même, d'ailleurs, il faut aussi le dire, dans les années 70, il y a John Rawls, américain, en fait, qui fait théorie de la justice, on est en 71, donc ça veut dire que Charles Mills, il est aussi dans un milieu universitaire où, en fait, la pensée politique a été fondée et en pleine effervescence grâce à Rawls autour, en fait, de ce contrat social, c'est-à-dire de ce pacte entre personnes consentantes à égalité qui veulent sortir de l'état de nature pour devenir des citoyens. Et effectivement, ce que Charles Mills dit et que vous reprenez Amandine Gay, c'est qu'effectivement, cette transformation, ça dépend pour qui. Qui est considéré comme une personne avant le contrat social et qui va être considéré comme une personne après le contrat social. Il y a ces deux dimensions-là, en fait, dans le contrat racial.
Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que dans l'état de nature, techniquement, tous les êtres humains sont un état pré-citoyen. Mais en fait, ce que montre Mills, c'est que finalement, quand on théorise sur le contrat social, on considère qu'il y en a qui sont un état non-citoyen, pas pré-citoyen. Et que cet état de non-citoyen va avoir une implication politique sur le long terme. Et donc moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, le Code noir en France, il est effectif à partir de 1685. Et dans le Code noir, on dit que les personnes esclavisées ont un statut de bien meuble. Donc ça veut dire qu'on a déjà commencé la théorie du contrat social et qu'on a déjà défini hors de l'humanité les personnes africaines déportées vers les Amériques. Donc par définition, cette conception d'une non-humanité, d'une extériorité à l'humanité, d'une partie de l'humanité, elle est là, elle est au fondement des théories du contrat social. Et ça, je trouve que c'est essentiel, parce qu'une fois qu'on vous l'a dit, vous dites « Ah bah oui, c'est évident ». Et donc c'est pour ça que, des siècles plus tard, nous n'avons toujours pas une égalité réelle entre personnes noires et personnes blanches. Ça vient de cette histoire-là. Ça vient de ce moment fondateur, historique. Et ce que je dis dans le livre aussi, c'est que autant il va y avoir des théoriciens du contrat social qui sont foncièrement des adhérents à la notion d'une hiérarchie entre les races, et c'est le cas de Kant, par exemple, autant il y en a d'autres comme Rousseau, qui sont beaucoup plus, on va dire, ambivalents. Et chez Rousseau, ça se traduit par le fait de ne pas nommer. De ne pas nommer l'esclavage qui lui est contemporain.
Faire comme si ça n'existait pas, en fait.
Rousseau, il va théoriser sur la servitude comme si c'était quelque chose, une notion abstraite, ou une notion du passé. Alors que c'est concomitant du développement de sa théorie de la servitude.
Ce qui est d'autant plus frappant chez Rousseau, c'est que quand il propose son contrat social, et notamment dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il va dire qu'il y a eu le contrat social, mais avant le contrat social, il imagine l'origine de ce contrat social, il imagine qu'il y a eu un contrat de dupe. C'est-à-dire un mauvais contrat qui, en fait, va entériner l'exploitation et la domination et nous prouver à quel point ce contrat n'est pas le bon. Or, la théorie du contrat social qui se veut être à la fois un modèle, un idéal vers lequel on tend, mais qui devrait quand même dans la réalité lui ressembler le plus possible, quand on se penche là-dessus aujourd'hui, et c'est Mills qui le dit, ressemble plus en fait à ce contrat de dupe que Rousseau nous décrivait au départ.
Oui, et là peut-être on en revient justement à cette cognition affectée par la suprématie blanche. C'est-à-dire d'être en mesure de simultanément voir et pas voir. Moi c'est ça que je trouve fascinant, c'est que si on enlève un jugement de valeur, si on ne se dit pas les blancs sont méchants, mais si on se dit comment est-ce qu'ils sont affectés par la suprématie blanche comme régime politique ? Alors on peut comprendre ce savoir-non-savoir, cette connaissance, cette non-connaissance volontaire, comme l'appelle Mills et puis d'autres personnes qui vraiment réfléchissent à l'épistémologie de l'ignorance, c'est-à-dire ce qui fait qu'on va oublier certaines informations, qu'on va, développer la théorie du contrat de dupe alors qu'il y a l'esclavage en même temps qu'on développe la théorie du contrat social, c'est quand même fascinant. C'est qu'au fond, il le sait.
Et alors d'ailleurs, qu'est-ce que vous entendez par suprématie blanche, qui est un terme qu'emploie Mills? Il n'emploie pas le terme de racisme, il emploie le terme de suprématie blanche et il a cette phrase, la suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'après avoir expliqué le contexte du contrat social, ce qu'il est, son esprit, le contrat racial. Il faut, pour bien qu'on comprenne les textes, voilà, qu'est-ce qu'entend Mills par suprématie blanche, qui est un terme, faut le dire, entre suprématie et on a en tête les suprémacistes, qui peut effrayer tout le monde. Et effectivement, les auditeurs, les auditrices, en se disant, je suis pas suprémaciste. Voilà, vous voyez, il y a une forme de crainte dans ce terme-là.
Oui, bien sûr. Ben moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre, parce qu'en fait, initialement, la première fois que j'ai parlé de suprématie blanche comme régime politique, c'était sur mon Facebook en 2016, et j'avais fait un poème que j'avais terminé en disant « J'ai grandi au sein de la suprématie blanche ».
Donc un an après avoir lu Mills.
Voilà. Ouais.
Poème sur la suprématie blanche.
Et donc, je termine en disant « J'ai grandi au sein de la suprématie blanche et j'ai survécu ». Et là, ça a fait une espèce de tollé dans ma famille, parce qu'effectivement, des personnes de ma famille qui ont pensé que j'avais dit qu'ils étaient des suprémacistes blancs. Et donc, du
faut
coup,
que je précise à mon vous avez été adoptée, oui. Et vos parents sont blancs.
Et je suis noire.
Voilà, donc voilà, il faut préciser le contexte. Voilà. Donc effectivement, vos parents l'ont mal pris.
Non, pas mes parents. Bah non, mes parents, c'est mes parents, donc ils sont dans mes affaires là depuis longtemps. Ils sont très conscientisés. On va dire c'est dans la famille plus élargie, ouais. C'est Facebook.
Oui.
Donc on va dire dans notre entourage, certaines personnes ont dit, mais alors est-ce que ça veut dire qu'Amandine dit à tout le monde qu'on est des suprémacistes blancs ? Et donc bien entendu, c'est pas ça que je disais. Moi, j'avais du coup déjà, on va dire, intégré dans ma pensée, la perspective anglo-saxonne, qui est que la suprématie blanche, c'est un régime politique d'oppression raciale, de la même façon que le patriarcat est un régime politique d'oppression sexiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, les racismes sont des manifestations de la suprématie blanche comme régime politique. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le terme racisme, on n'est pas assez précis. Est-ce qu'on parle du racisme scientifique du XVIIIe siècle ? Est-ce qu'on parle d'agression raciste du quotidien ? Est-ce qu'on parle du racisme médical. Est-ce qu'on parle du racisme systémique comme le profilage racial que peut mener la police ou d'autres formes de discrimination raciale à l'embauche, etc. Tout ça, ce sont des manifestations. Il y a un régime politique qui a justement une histoire, qui a même des théories politiques qui le sous-tendent, qui affecte la cognition du groupe majoritaire, mais qui peut aussi affecter la cognition des personnes racisées, c'est-à-dire qui font l'objet d'un processus de racisation. Ce terme aussi, il crispe les gens. Moi aussi, je serais ravie de dire que je suis un être humain. Je suis un être humain. Mais si je marche dans la société française en me considérant juste comme un être humain, il va m'arriver un certain nombre de bricoles que je ne vais pas pouvoir comprendre si je ne sais pas aussi que je suis noire, que je fais l'objet d'un processus qui m'assigne une catégorie raciale dans laquelle on va retrouver plein de stéréotypes. Donc moi, je trouve que c'est important d'arriver à faire exister dans l'espace public francophone et français, parce qu'en fait, ça existe déjà, suprématie blanche comme régime politique au Québec, par exemple. Donc c'est en France, parce qu'on n'a pas traduit des gens comme Mills, qu'on n'a pas intégré leur pensée.
Parce qu'on a un attachement aussi à l'idée d'universalité et de ce qu'on appelle la color blindness, c'est-à-dire de pas d'être aveuglé aux couleurs, c'est-à-dire que l'universalité masquerait toutes les différences.
Oui, et c'est là aussi que je voudrais quand même ramener une autre personne, et là c'est aussi les féministes qui ont quand même fait ce travail historiquement. Hein, on a Christine Delphi, par exemple, en France, et c'est Christine Delphi, en 2010, qui a écrit un livre, Un universalisme si particulier. Alors elle, c'est d'un point de vue de le rapport de l'universalisme aux femmes, mais on pourrait le voir en fait pour toutes les minorités ou toutes les personnes minorisées. L'universalisme à la française, il est justement informé par la suprématie blanche comme régime politique. De la même façon que le contrat social, comme dit Charles Mills dans le livre, prétend « nous le peuple », mais en fait signifie « nous le peuple blanc », l'universalisme à la française, il signifie pas tous les êtres humains, il signifie les blancs en fait. Et c'est un universalisme qui refuse de voir les couleurs parce qu'il considère qu'il n'y en a qu'une seule. Alors moi, je ne parle pas de couleur, je parle de race comme construction sociale. En fait, c'est la construction sociale de ce qu'est être blanc, parce que c'est aussi un autre terme qui crispe les gens. Les gens vont dire « mais attendez, moi je ne suis pas blanc, je suis une personne ». Mais moi, je ne suis pas noir non plus, je suis une personne. Ma couleur de peau, c'est marron. Les blancs, ils sont beige rosé. Donc en fait, c'est ça une construction sociale. C'est qu'en utilisant certains termes, on va avec eux ramener toute une représentation du monde. Et moi, quand je dis blanc, c'est pour faire exister la norme. Ce qui se passe quand on appartient au groupe majoritaire, quand on appartient au groupe dominant et quand on appartient à la norme, c'est qu'on disparaît. On est présenté comme étant, on va dire, voilà, le maître étalon de l'humanité. Et c'est ça l'universalisme à la française. Donc moi, je préfère des notions comme le pluriversalisme, faire coexister des mondes, ou alors d'aller vers un véritable universalisme, comme par exemple, nous n'avons toujours pas le suffrage universel en France. On a des millions de personnes qui sont exclues du suffrage universel, qui sont les mineurs. Voilà, donc le suffrage universel, ce sera quand il y aura tout le monde qui vote. C'est ça le terme. Et donc, historiquement en France, on utilise aussi des termes qui n'ont pas de réalité politique. Pendant très longtemps, le suffrage universel a exclu les femmes, avec les mêmes arguments d'ailleurs qu'on utilise aujourd'hui pour exclure les enfants, qui sont elles vont être influencées par leur mari, elles sont pas autonomes, etc.
L'immaturité, le...
Et donc l'infantilisation, la domination adulte qui permet aujourd'hui de priver les enfants de droits civiques, c'est un modèle qu'on a utilisé pour opprimer les femmes, en les infantilisant, et aussi les personnes racisées. C'est quoi la rhétorique coloniale, c'est celle de la mission civilisatrice. On va aller éduquer les grands-enfants, on va leur amener justement le contrat social, on va leur amener la possibilité de devenir des citoyens. Donc moi, c'est tous ces points-là aussi que j'essaye de connecter pour qu'on rentre dans un... Si on est dans l'universalisme, il doit être réel. C'est toujours pas le cas aujourd'hui en France. Et donc, on doit venir décortiquer tous les termes et montrer quand est-ce qu'on est justement dans des termes de dupes et pas dans de la réalité politique, pas dans du concret.
On va écouter tout de suite un extrait du contrat racial de Charles Mills pour voir comme toutes ces idées que vous avez développées, hein, qui traversent tout le livre de Charles Mills, sont déployées dès les premières lignes.
Le contractualisme est, prétendument, voué à l'égalitarisme moral, l'égalité morale de tous les êtres humains, à la notion que les intérêts de tous les êtres humains comptent également et que tous les êtres humains doivent avoir des droits égaux. Par conséquent, le contractualisme est aussi opposé, de manière fondamentale et par principe, à l'idéologie hiérarchique traditionnaliste de l'ancien ordre féodal, l'idéologie du statut assigné de manière inhérente et de la subordination naturelle. C'est ce langage d'égalité qui trouve écho dans les révolutions américaines et françaises, la Déclaration d'indépendance et la Déclaration des droits de l'homme. C'est aussi cet égalitarisme moral que l'on doit prendre en considération dans l'attribution des droits et libertés dans la société civile. Lorsque, dans une société occidentale contemporaine, les gens insistent sur le respect de leurs droits et libertés et expriment leur indignation de ne pas être traités sur un même pied d'égalité, c'est à ces idées classiques qu'ils font appel, qu'ils le sachent ou non. Cependant, le contrat racial, avec son système moral basé sur un code de couleur, limite la possession de cette liberté naturelle et de cette égalité aux hommes blancs. En raison de la non-reconnaissance complète, ou, au mieux, la reconnaissance myope et insuffisante des responsabilités de la loi naturelle, les non-blancs sont ainsi relégués à un échelon plus bas de l'échelle morale, la grande chaîne des êtres. On les désigne comme étant nés non libres et inégaux. Une ontologie sociale segmentée est créée, un univers divisé entre personnes et sous-personnes raciales, qui peuvent être diversement noires, rouges, brunes, jaunes, esclaves, aborigènes, populations coloniales, et appelées collectivement de manière appropriée des races sujettes.
Extrait du contrat racial de Charles Mills, un texte choisi par notre invitée Amandine Gay. Nous sommes dans le premier chapitre qui s'intitule « Vue d'ensemble ». Il y a peu de chapitres dans ce texte, Amandine Gay. Il y a d'abord donc une courte introduction, ce chapitre « Vue d'ensemble », mais qui je pense il faut le lire parce que ça fait une trentaine de pages. Tout est posé de ce qu'on a dit sur les hautes théories du contrat social et le contrat racial, en quoi il consiste. Puis après, en fait, des détails où ça revient un petit peu sur des parties, le rapport à l'espace, le rapport au corps, le rapport à l'esthétique, aux idéologies, donc des détails qui n'en sont pas finalement. Et un dernier chapitre qui s'appelle « Mérite naturalisé ». Mais nous sommes ici donc avec ce texte au tout début et on entend très bien l'idée en fait de ce contrat social qui n'est pas que politique, qui n'est pas que économique, mais qui est aussi moral. Il y a une dimension morale et la dimension morale c'est l'égalité. Et là, Charles Mills nous dit « voilà l'écart qui se crée entre le principe et la réalité ».
Ben oui, tout à fait. Non mais moi c'est ça que, en fait, je pense que ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est que justement si on n'est pas habitué, par exemple la philosophie, la tradition philosophique française, quand même c'est souvent des textes opaques. On est quand même sur des... En tout cas, moi, je veux dire, je suis là, je dois relire les phrases quatre fois, genre Derrida, des choses comme ça, c'est très
complexe. Là, Derrida, vous prenez... On en parle la semaine prochaine, vous prenez... Le
oui, un des
par pires. Excellence voilà le symbole de la difficulté à lire quoi.
Mais en fait quand même très souvent je trouve que l'objectif n'est pas de se rendre intelligible. Mmh. Et en fait, une des choses que j'aime aussi, même dans la façon d'écrire, moi je me rappelle quand je suis arrivée en Australie et que j'ai rendu mes premiers devoirs, j'avais des mauvaises notes. Et je comprenais pas parce que j'avais toujours des très bonnes notes en rédaction, etc. en France. Et ils m'ont dit, en fait, on veut pas attendre la conclusion pour avoir votre opinion. on veut savoir ce que vous pensez d'entrée de jeu et ensuite vous nous expliquer pourquoi vous pensez ça. Et en fait, c'est vraiment ce que fait Mills avec Vue d'Ensemble. Il arrive et il nous dit, voilà, moi je vais vous expliquer pourquoi il y a un contrat racial, pourquoi je pense que ce qu'on nous présente comme de l'égalité, c'est dès le départ informé par la race. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça aussi, et je reviens sur cette question de race comme construction sociale, parce que ça aussi, ça fait débat en France. Lui, ce qu'il fait aussi, c'est réhabiliter cette notion-là. C'est de dire, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas quelque chose de mineur, mais c'est constitutif de la pensée occidentale, c'est constitutif de la vision du monde. La race, elle est centrale, elle est partout. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire, oh non, bon, alors déjà, il ne faut pas parler de race parce qu'ils pensent qu'on parle de la race du 18e siècle, donc c'est bien pour ça que j'ai dit comme construction sociale et pas comme réalité biologique, etc. Mais cette vision de la société où il y aurait en haut, parce qu'il y a une hiérarchie au sommet duquel il y a les personnes blanches et ensuite il y a le reste du monde, elle est partout. Et donc c'est ça en fait que dit Mills. On ne peut pas parler d'égalité tant qu'on n'a pas adressé la race comme construction sociale et comme fondement des sociétés occidentales modernes.
Et qu'est-ce que vous répondez avec Mills à des objections qui disent que parler de race, même comme construction sociale et politique, ça la fige et ça la fait exister d'une certaine manière et ça fait perdurer ces inégalités-là.
J'ai envie de vous dire, on n'a tellement pas parlé d'une façon politique et critique pendant des décennies en France, et ça s'est quand même bien cristallisé, le racisme, l'extrême droite, etc. Donc moi, je pense que c'est, en fait, au mieux, c'est une fausse peur, et au pire, c'est plutôt un argument fallacieux pour ne pas traiter, justement, d'un sujet qui, s'il était abordé correctement et constamment dans nos sociétés, viendrait effectivement ébranler beaucoup de systèmes d'oppression et beaucoup de domination. Pour moi, l'enjeu, de toute façon, on ne résout rien par le silence. Pour moi, c'est aussi absurde de dire, mais est-ce que vous pensez pas qu'à force de parler d'inceste, il va y avoir de plus en plus d'incesteurs ? C'est faux, en fait. Ce qui permet aux oppressions de prospérer et de se perpétuer, c'est le silence. Donc, en fait, on ne fait pas exister la race comme construction sociale quand on la nomme, on lui donne la perspective d'être détruite comme fondement et système d'oppression, quand on la nomme. C'est ça qui se passe.
Alors, il y a deux choses intéressantes dans le texte, Amandine. Enfin, en tout cas, deux dimensions du contrat racial, qui est que seuls peuvent pactiser des personnes qui sont considérées comme des personnes. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une distinction qui est faite avant le contrat social, racial, mais il y a aussi une distinction qui est faite après, c'est-à-dire que le contrat racial va à la fois acter une hiérarchie entre personnes et non-personnes, entre blancs et non-blancs, mais il va aussi en fait l'entériner. Et j'aimerais, il parle d'ontologie sociale, ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on est dans quelque chose où il dit que cette ontologie est segmentée et créée, un univers, il dit, divisé entre personnes et sous-personnes raciales, mais en fait, comment est créé ce qui était déjà là, en fait, ce qui a été entériné par le fait déjà d'exclure certaines personnes, à savoir, bah, vous l'avez très bien dit, donc les personnes non blanches, les femmes et les enfants. Qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qu'on entend par ontologie sociale? Qu'est-ce qu'il entend par là, Charles Mills?
Bah, pour moi, c'est vraiment comme lorsqu'il parle du statut de pupille de l'État pour les personnes colonisées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on place les personnes qui ont été catégorisées comme non humaines, sous-humaines, hors d'une possibilité d'accès aux idéaux qu'on prétend leur offrir quand on va les coloniser. Et donc c'est ça qui est assez magique. Moi d'ailleurs, j'avais appelé initialement le chapitre où je parle du lien entre domination adulte et suprématie blanche, je l'avais appelé l'éternelle minorité des sauvages. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. En fait, la minorité au sens du statut de mineur, bah c'est d'être exclu en fait des droits civiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a été catégorisé comme sous-humain, non-humain, peu importe ce qui va se passer, on sera toujours des citoyens de seconde zone. C'est ça, en fait, qu'il révèle dans sa théorie.
Est-ce qu'il donne une solution ?
Alors, je ne sais pas s'il donne des solutions, parce que, aussi, c'est un philosophe. Donc, techniquement, les philosophes, ils ne sont pas forcément là pour nous donner des solutions.
Parfois, on est un peu déçus. On aimerait, d'ailleurs, parce que, je vous fais juste cette citation-là, Amandine Gay, on a cette définition qui est très claire du contrat racial. On la trouve page 43. Charles Mills nous dit « Le contrat racial est cet ensemble d'accords formels ou informels ou de méta-accords raciaux. » Donc là, en tant que blanc. Donc en fait, on voit très bien, voilà, le contrat racial, il nous le décrit très bien. À un moment donné, on le lit, on peut avoir un éveil, c'est-à-dire vraiment se dire ça met des mots sur une colère, sur une injustice, ça met aussi des mots sur une ignorance que moi, par exemple, j'ai sur le contrat racial. Mais le fait de dire ça, le fait d'avoir des mots, est-ce que c'est suffisant?
Mais alors, j'ai envie de dire, vraiment, en fait, la raison pour laquelle j'ai dit c'est un philosophe, c'est que je trouve que très souvent, quand on est des personnes noires, parce qu'on va ramener aussi, du coup, dans l'espace public, des nouvelles perspectives, on va aussi nous demander des choses, par exemple, qu'on demande pas aux philosophes blancs. Ou qu'on va pas demander, par exemple, à des écrivains ou des écrivaines, on va pas leur demander des réponses sociales. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis, Charles Mills, c'est un philosophe, il faut lui laisser sa place de philosophe, qui est là pour théoriser, pour offrir une clé de compréhension du monde. Et après, il y a plein de personnes, dont moi, qui derrière s'en saisissent, parce qu'en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que parmi les raisons du fait que Charles Mills soit devenu un best-seller, c'est que comme c'est accessible, les gens qui s'en sont saisis, c'est beaucoup, les sociologues, les activistes, les artistes, parce que d'un coup, toutes ces personnes qui essayaient à leur façon de recoller les morceaux, lui, il nous donne la théorie, il nous donne l'explication, l'analyse de la société dans laquelle on vit, en fait. Il nous explique les fondements de la société dans laquelle on vit. Nous, à partir de là, c'est pour ça qu'on se dit, bah, alors, en fait, moi, je vais jamais lâcher la notion de race comme construction sociale, puisqu'elle est au fondement des inégalités. Et donc, je me dis, bah, je fais des films où je vais essayer de montrer, justement, que ça existe. Parce qu'en fait, c'est ça, on va nous
dire. Déjà, le premier pas, voilà, c'est de dire, ça existe.
Ça existe. C'est là et c'est omniprésent. Voilà, dans le livre, je le dis aussi, vous êtes toujours plus blanc que vous ne le pensez. Si on admet qu'on appartient à une catégorie sociale, on est aussi blanc que moi je suis noir. Et ça, c'est très important. Parce que quand on refuse d'être une personne blanche, quand on dit « moi je suis pas blanc, je suis un individu » ou « moi je ne vois pas les couleurs », on perpétue le régime d'oppression raciale. Parce que un des socles du régime d'oppression raciale, c'est de nier son existence. C'est de dire que ces catégories-là ne sont pas opérantes, qu'elles n'ont pas de sens. C'est de dire, ben non, ce n'est pas un débat de parler de réparation concernant l'esclavage et la traite, parce que c'était il y a longtemps. Mais la richesse actuelle de villes comme Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Honfleur, elle vient pas de nulle part. Elle vient de cette histoire de traite et d'esclavage. Donc, on parle par exemple, dans les pays anglo-saxons, de generational wealth, d'argent de richesse générationnelle. Ce qui est bien plus intéressant que de s'intéresser aux inégalités de salaire, par exemple. Parce qu'il y a déjà une exploitation des personnes noires qui vont être payées moins que les personnes blanches. Mais il y a aussi la question de l'héritage. Et la question de l'héritage, elle est individuelle, mais elle est aussi sociétale. Donc moi, pour moi, là où Charles Mills nous offre des réponses pour la société, c'est que quel que soit le champ qu'on investit, qu'on soit un économiste, qu'on soit une artiste, qu'on soit un sociologue, si on a lu Charles Mills, on va travailler différemment. Et on va travailler à faire émerger l'importance de la race dans tous les domaines dans lesquels on travaille.
Alors, j'ai très mal lu le texte. J'avais sauté des... Donc, je veux le relire parce que en fait, cette définition, elle est importante, justement, du contrat racial. Le contrat racial, nous dit Charles Mills, c'est cet ensemble d'accords formels ou informels ou de méta-accords entre les membres d'un sous-ensemble d'êtres humains désormais désignés par des critères raciaux en tant que blancs. Voilà, là, j'ai donné la bonne définition pour les auditeurs et les auditrices. Voilà, il y a dire, tenir à ce concept de race, mais il y a aussi le fait d'être, comment dire, au courant de ça. C'est-à-dire que on pourrait aussi très bien dire je ne suis pas du tout raciste, d'accord pour le concept de race, mais vraiment en fait je suis pour l'égalité, mais par contre je trouve que la suprématie blanche, ça je n'en veux pas, je ne pense pas en fait qu'il y ait eu un accord de personnes entre elles qui se sont mis en groupe et je n'en fais pas partie, qui vont dire je vais opprimer tel ou tel groupe. Il y a aussi en fait cette objection de la conscience, mais aussi presque de la conscience manipulation d'un certain groupe contre un autre. Comment vous répondez à cette objection, avec Charles Mills encore une fois, d'accusation de vous avez une vision complotiste, en fait, du monde?
Alors, je trouve ça hyper intéressant, et c'est pour ça, en fait, comme ça existe, hein, et que c'est
surtout
permanent,
que Charles Mills parle d'échafaudage, de programme, de plan. Donc
bien
voilà, ça prête le flanc à ces objections-là.
Oui, c'est vrai, mais par exemple, dès qu'on va dans des exemples concrets, et c'est une chose que moi je fais beaucoup dans mon livre, je parle par exemple de l'épisode du blanchiment des troupes coloniales en 1944, au moment de la libération en France. Ça, c'est un moment documenté et organisé, où on décide que comme il faut satisfaire aux demandes d'Eisenhower dans l'États-Unis ségrégationniste, il refuse qu'il y ait des personnes noires sur les photos de la libération, enfin des soldats noirs sur les photos de la libération, pour justement entretenir une idée héroïque des sauveurs blancs de la République française et de la démocratie en Europe. Donc, alors que la guerre a quand même été quand même bien gagnée grâce à mes ancêtres, j'ai envie de vous dire, il n'y aurait pas eu les troupes coloniales et il n'y aurait pas eu les Afro-Américains, c'est pas certain que cette affaire ait été gagnée. Et puis après, il y avait les Soviétiques de l'autre côté. Mais donc, les personnes qui ont combattu jusqu'à l'arrivée aux portes de Paris sont stoppées avant l'entrée dans Paris, les personnes noires et maghrébines qui composent les troupes de tirailleurs dits sénégalais, et on laisse rentrer que des personnes blanches dans Paris. Il y a quand même quelques soldats noirs dans Paris, et donc au moment de faire de publier les photos de la libération, ces personnes-là vont être effacées, parce qu'avant Photoshop, il était quand même possible d'effacer les gens des photos. Et c'est seulement dans une exposition de 2014 au musée Carnavalet que l'histoire du blanchiment des troupes coloniales au moment de la libération en France a réémergé dans l'espace public français. Donc parfois, il y a des vrais épisodes d'effacement des personnes noires de l'histoire. Mais si on veut parler d'un système politique d'oppression, celui qui est quand même un peu moins débattu aujourd'hui, mais qui a fait exactement l'objet de toutes les mêmes critiques de quand on veut parler des questions raciales, c'est la question du patriarcat. Il y a assez peu aujourd'hui de réunions d'hommes qui se disent « Ah ah ah, on va pas laisser les femmes rentrer dans tel domaine d'activité ». Et ce que je dis souvent, il y a encore moins d'hommes qui se pointent en entretien d'embauche en disant « Et j'espère bien qu'à compétences égales, je vais être plus payé que mes collègues femmes ». Mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin, les hommes, d'être dans la violence conjugale, dans la demande de salaire supérieur à ceux des femmes alors qu'ils ont les mêmes compétences, parce qu'ils vivent déjà dans un système d'oppression sexiste qu'est le patriarcat, et donc on va leur octroyer ces avantages indus parce qu'ils sont des hommes. C'est la même chose avec la suprématie blanche comme régime politique. Vous n'avez pas besoin d'être activement raciste, vous n'avez pas besoin de traiter quelqu'un de sale noire, vous n'avez même pas besoin de poser le CV d'une personne avec un nom à consonance maghrébine hors de la pile pour profiter de la suprématie blanche. Vous sortez de chez vous sans prendre votre carte d'identité, sans vous inquiéter, parce que vous n'avez jamais été contrôlé par la police. Vous allez à l'hôpital sans vous inquiéter parce que vous n'êtes pas au courant qu'il existe quelque chose comme le racisme médical qui fait qu'on va prendre votre douleur moins au sérieux parce qu'on va considérer que c'est le syndrome méditerranéen, ou qu'on va même carrément pas vous envoyer les secours quand vous appelez à l'aide comme Naomi Muzenga en 2017 et que vous allez mourir parce que les opératrices du SAMU se sont moquées de vous parce que vous aviez un léger accent camerounais.
Vous restituez ça dans votre livre Vivre Libre.
Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est de se dire, en fait, ne pas participer quand on est dans un régime d'oppression, la passivité vous rend déjà complice et vous permet quand même d'en retirer des bénéfices.
Il y a cette distinction que Charles Mills reprend, qui est la distinction du contrat social, donc de jure, je le dis à la latine, de droit, et le contrat social de facto, c'est-à-dire dans les faits. Et ce qu'il rappelle, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre le moment, quand on dit notamment, c'était pas la même époque, on dit donc le moment où effectivement, on a élaboré des théories du contrat social, alors qu'il y avait des codes noirs, des lois sur les Indiens, de la colonisation et des guerres de conquête. Et le moment où aujourd'hui, effectivement, il y a eu l'abolition, il y a eu la décolonisation, on a eu le mouvement des droits civiques, mais cela n'empêche pas que le contrat racial perdure. Ça, c'est aussi une réponse, un argument, en fait, qu'on trouve enfin face à des objections de dire « c'était une époque différente », c'est-à-dire « bah oui, mais en fait, l'époque est différente, mais il y a quelque chose qui perdure », mais c'est aussi une réponse à cette idée de complot, de tirer des ficelles, vous ne trouvez pas, Amandine?
Oui, et puis même, moi, j'ai déjà une limite à mettre à la question de c'était des hommes de leur époque ou c'était des gens de leur époque. Parce que même à leur époque, il y a des voix dissonantes. Au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, vous avez Mary Wollstonecraft, qui est une philosophe féministe.
Qui est d'ailleurs la mère de Mary Shelley, celle qui a écrit Frankenstein.
Par ailleurs.
en plus de tout.
Et elle est soutenue dans son travail, parce qu'elle va mourir très jeune, par William Godwin, qui est un théoricien anarchiste, etc., qui va, parce que c'est un homme, mais il le sait très bien, en publiant la biographie de Mary Wollstonecraft, faire exister son œuvre. Donc, en fait, il y avait aussi, à ces époques-là, il y a Olympe de Gouges qui aussi perdra aussi sa tête sur le fait qu'elle était non seulement pro-féministe, mais en plus anti-esclavagiste. Donc, je veux dire, même dans ces époques-là, il y a des voix dissonantes. Tout le monde n'est pas en faveur de l'oppression et de l'exploitation de son prochain. Donc, c'est ça aussi, moi, je trouve qu'on doit aller voir l'histoire en détail, aller voir les théories en détail, parce qu'en fait, on a déjà des traces de ces critiques au moment où ces théories-là sont formulées.
On va écouter un autre extrait du Contrat racial de Charles Mills, un texte où on entend l'ironie dont vous parliez, Amandine Gay.
Incidemment, pour les questions concernant la race, le contrat racial prescrit une épistémologie inversée à ses signataires. Une épistémologie de l'ignorance, un schéma particulier de dysfonction cognitive locale et mondiale, lesquelles sont psychologiquement et socialement fonctionnelles, produisant un résultat ironique où les Blancs seront en général incapables de comprendre le monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Une partie de ce que signifie être construit en tant que Blanc, la métamorphose du contrat sociopolitique, une partie de ce qui est requis pour parvenir à la blanchité, pour devenir avec succès une personne blanche. On peut imaginer une cérémonie avec certificat accompagnant un rite de passage réussi. Félicitations, vous êtes désormais officiellement une personne blanche. Requiert un modèle cognitif qui empêche la transparence vis-à-vis de soi-même et une véritable compréhension des réalités sociales. On pourrait dire, en tant que règle générale, que l'incompréhension, la fausse représentation, l'évitement et l'aveuglement volontaire blanc à propos des questions liées à la race font partie des phénomènes mentaux les plus répandus des derniers siècles, une économie morale et cognitive psychiquement nécessaire à la conquête, la colonisation et l'esclavage. Et ces phénomènes ne sont aucunement fortuits, mais prescrits par les modalités du contrat racial qui requièrent un schéma particulier d'aveuglement et d'opacité structurée, afin d'établir et de maintenir le système politique blanc.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait encore du contrat racial de Charles Mills, c'est dans la traduction de Ali Ndiaye, on le trouve aux éditions Mémoire d'Encrier. Je précise que c'est une maison d'édition québécoise. Amandine Gay, ça a été lu par Cassandre Puel, et on entend très bien dans ce texte qui fait encore partie en fait de ce chapitre vu d'ensemble, mais qui va être développé dans les détails, notamment voilà sur la cognition. Vous aviez insisté là-dessus, Amandine Gay, et c'est vrai que c'est une chose qu'on apprend, c'est-à-dire les méthodes, les stratégies, on pourrait dire, d'aveuglement. L'incompréhension, la fausse représentation, l'évitement, l'aveuglement volontaire, on pourrait dire aussi le déni, qui font qu'en fait, on se dit, et il le dit d'ailleurs à un moment donné, Charles Mills, c'est « les choses sont comme ça ».
Exactement. Ou à l'inverse, ça n'a jamais existé. Ou finalement, si on vous dit, il y a quand même eu l'esclavage, oui, mais c'était il y a longtemps. Et vous dites, mais enfin, il y a quand même...
Tout ce qui vise à minimiser, à minorer, en fait.
Exactement. Ou de dire, je n'ai pas de lien avec cette histoire. Et en fait, moi, j'essaie toujours, par exemple, de dire, mais en fait, on peut pas, par exemple, demander le vivre ensemble et refuser notre histoire commune. L'histoire de l'esclavage, c'est pas l'histoire des Nord de France. C'est l'histoire de toute la France, en fait. Ça concerne tout le monde. S'il y a eu des personnes esclavisées, il y a eu des esclavagistes. Si nous sommes des descendants de personnes esclavisées, il y a des descendants d'esclavagistes, il y a des descendants de personnes qui ont profité de la traite, il y en a partout. Et donc, en fait, je pense que cette idée de, encore une fois, rendre visible, moi, je pense que c'est pas pour rien que je suis aussi cinéaste, faire exister dans l'espace public, j'ai cité l'épisode du blanchiment des troupes coloniales, etc., que l'ignorance, c'est pas aussi un fait naturel, c'est pas « oh, je le sais pas ». Ça peut vraiment relever aussi de démarches volontaires à certains niveaux. Oublier, décider d'exclure certains sujets des manuels scolaires, décider que certains sujets ne méritent pas d'être abordés dans l'espace public, etc. Tout ça, ça participe de voilà ce qu'on va appeler une non-connaissance volontaire, d'une ignorance qui n'est pas juste une ignorance ignorée. Ça, c'est aussi un des travaux de féministes, originellement, d'aller questionner l'ignorance comme un fait social. comme un sujet. De se dire, voilà, par exemple, est-ce que c'est normal que les premières imageries médicales du clitoris datent des années 2010, par exemple? Bah, ça a un sens. Cette ignorance dans le domaine de la médecine concernant, par exemple, la santé reproductive des femmes ou même certains de leurs organes vient du fait qu'il y a historiquement moins d'intérêt pour les femmes dans le domaine de la médecine.
Et c'est ce que Charles Mills appelle l'épistémologie de l'ignorance. C'est vraiment en fait un concept chez lui. C'est comme, voilà, il y a le contrat racial qui est le concept majeur, mais ça va être déplié en plusieurs concepts, dont celui-ci d'épistémologie de l'ignorance, c'est-à-dire comment le savoir s'organise en fait sur un non-savoir, ce qui semble paradoxal, mais effectivement, voilà, il y a des hors-champs, il y a de l'aveuglement, et puis surtout, en fait, il y a une manière de voir le monde, même dans les récits. S'explique très bien voilà, Charles Mills, c'est que vraiment, voilà, des récits sont faits à partir de constructions complètement imaginaires des autres. C'est-à-dire les autres, il parle vraiment de peuples qui n'ont jamais existé, on trouve ça dans les récits. Ouais, il prend plein d'exemples, et effectivement, on voit qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça d'ailleurs que le terme, et je vous ai posé la question à Amandine Gay, de la question de l'objection du complot, de la vision complotiste, parce qu'il dit, ça n'est pas fortuit, mais c'est prescrit par les modalités du contrat.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui encore, moi je vais tout le temps sur des exemples concrets. Aujourd'hui encore, quand on est une personne noire, on fait l'expérience quotidienne de l'impact de ces représentations erronées que produit la suprématie blanche chez les personnes blanches. Moi, je donne toujours cet exemple. Dans les années 2012, j'écrivais de la fiction et je pitchais des projets à des producteurs blancs. On est en 2012, donc on est bien avant l'arrivée des afroféministes dans l'espace public, le retour de ces questions raciales, etc., dans l'espace public. Et donc, je pitch parmi de nombreux personnages un personnage de lesbienne noire sommelière. Et comme on est après des décennies de représentations stéréotypées des femmes noires dans l'espace public français, au cinéma, à la télévision, où on voit principalement dans des classes sociales très spécifiques et dans certains métiers, le soin, le ménage, ou alors carrément des exilés, des personnes qui n'ont pas de papier. Et puis, qu'on nous voit, bien entendu, toujours hétérosexuels, éventuellement ayant beaucoup d'enfants, etc. Il y a une double objection à mon personnage de lesbienne noire sommelière. À chaque fois, on me dit, alors d'abord, on me dit, ces filles-là, tu regardes trop de séries anglo-saxonnes, ces filles-là n'existent pas en France. Je suis moi-même bisexuelle et ancienne manager de bar à vin, donc en fait, je suis assez sûre que les lesbiennes noires sommelières existent, j'en suis presque une. Voilà. De l'autre côté, quand j'explique, bah non, j'existe, je suis là, etc., on me dit, oui, mais en fait, voilà, quand même, le public va pas pouvoir s'identifier, voilà, c'est quand même pas assez réaliste. Elle pourrait être lesbienne ou elle pourrait être sommelière, mais elle peut pas être les deux en même temps. Et donc, pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait. C'est de se dire, il y a ça affecte jusqu'aux représentations du groupe majoritaire jusqu'à aujourd'hui. C'est moins surréaliste pour un producteur qu'on lui pitch Dr Spock avec des oreilles pointues qu'on lui pitch une lesbienne noire sommelière. C'est ça l'impact très concret de la suprématie blanche sur la représentation du monde et chez des gens qui ont contribué à établir cette représentation. C'est très compliqué d'être une cinéaste noire qui a envie de juste raconter des histoires quand les personnes en face vous répondent toujours comme si vous étiez juste une noire dans leur imaginaire. Et cet imaginaire, il charrie tout ce dont je parle Charles Mills, des contrées lointaines, sauvages, exotiques, des histoires qui seraient forcément
des noms
dramatiques,
fabuleux. Voilà. C'est ce qu'il appelle blanchité dans le texte.
Oui, bah en fait, la blanchité, c'est un ensemble de représentations, mais c'est tout. C'est-à-dire, ce sont les personnes blanches, c'est leur façon de voir le monde, ce sont les théories qu'ils développent, ce sont les représentations qu'ils mettent en scène. La blanchité, c'est le monde blanc, mais dans toutes ses composantes.
Dernière question rapidement à Amandine Gay avant qu'on passe à la séquence de fin. Il faut quand même rappeler que Charles Mills ne veut pas en finir avec le contrat social. Au contraire, il est attaché à l'idéal des Lumières. Il veut renouveler le contrat social en ayant à l'idée qu'il y a un contrat racial qui était en jeu. Il faut le redire. Voilà.
Bien entendu, nous, notre objectif, c'est de vivre dans une société qui soit réellement égalitariste, réellement universel, réellement un contrat social qui serait réel, l'idéal mis en exercice. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, nous, les personnes noires, les personnes racisées en général, qui ramènent toutes ces questions dans l'espace public, c'est de dire, si nous n'avons pas d'égalité aujourd'hui, c'est parce qu'on est parti sur un malentendu, si on est gentil, ou sur vraiment des bases qui étaient erronées. Nous, on travaille à l'égalité. C'est pour ça que j'ai parlé de vivre ensemble, plutôt. Le vivre ensemble, c'est pas magique. Ça requiert du travail, ça requiert de regarder notre histoire en face, ça requiert de faire notre examen de conscience, et ça requiert de se dire « je vais activement me mettre au travail en tant que dominant, dominante, appartenant au groupe, personne appartenant au groupe majoritaire, pour détruire les systèmes d'oppression. » Si vous n'êtes pas activement engagé contre les oppressions, vous y participez. C'est ça qu'on dit, nous. Mais bien sûr que l'objectif, c'est l'égalité, c'est la liberté de tous, c'est la fraternité, la sororité, tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'on est pour ça.
On va écouter la voix de Toni Morrison.
I take your race away. Je vous enlève votre race et vous voilà complètement perdu. Tout ce qu'il vous reste, c'est votre petit moi. Et qu'est-ce que c'est ?
What are you without racism?
Qu'est-ce que vous êtes sans le racisme ?
Are you any good?
Êtes-vous vraiment doué ? Êtes-vous encore fort ? Êtes-vous encore intelligent ? Est-ce que vous vous aimez toujours ? Si vous vous sentez grand seulement parce que les autres sont à genoux, alors vous avez un gros problème. Et moi, j'ai l'impression que les Blancs ont un très très gros problème. Et qu'ils devraient commencer à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire à ce sujet.
I'm tired of walking the street humming and bumming. Every time I go in, hey lady, you got to work. Say what? I can do what you're doing, you ain't doing nothing. I want a job, woman. I don't want your welfare. I don't want your welfare. Something, give me a job. If you wanna give me something, give me a job. If you wanna give me something, give me a job. If you wanna give me something, give me a job. I wanna work. I wanna work.
Chanson à Mandinguer pour introduire cette séquence de fin d'émission. Vous avez évoqué Love qui a transformé votre vie. Charles Mills, je le redis, place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous ne parvenez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment, voilà, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors moi, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est que je n'arrive pas à le lire. Hein. C'est Marcel Proust et c'est à la recherche.
C'est le cas d'énormément de monde.
À la recherche du temps perdu. En fait, avant, ça m'intéressait pas particulièrement. Il se trouve que mon conjoint est méga fan de Marcel Proust. À une époque de sa vie, il lisait à la recherche en boucle. Et
donc, il finissait, il reprenait. C'est ça. Finissait, il reprenait.
Et comme quand même généralement, il a, enfin voilà, j'aime sa façon de penser et tout. C'est lui qui m'a fait me dire, mais enfin, si Enrico est autant passionné par Marcel Proust, il doit y avoir quelque chose quand même. Donc j'ai essayé de lire et alors déjà au début j'avais pas compris que en fait la fille vraiment qui a rien suivi en littérature. Moi je savais qu'il y avait genre 3-4 livres de Proust mais que je n'avais pas compris qu'en fait c'était la même chose que à la recherche du temps perdu. Et donc j'essayais par le début du gros pavé de la recherche là, je sais plus quel épisode c'est, mais où c'est celui où il y a vraiment beaucoup de descriptions. Donc là
du côté de chez Swann, ouais.
Alors là du coup ça je me suis découragée un nombre incalculable de soi. Et donc Enrico m'a dit non mais commence par Un amour de Swann parce que là c'est plus il y a plus
d'action. Oui, commencez par la suite. Moi, j'avais eu ce conseil-là aussi d'une grande lectrice de Proust qui m'a dit ne commencez pas par le début, commencez par la suite, à L'ombre des jeunes filles en fleurs, par exemple. Voilà.
Exactement.
Un autre.
Et donc, du coup, je me suis dit je vais essayer. Alors, c'est vrai que j'ai été aussi plus loin que je n'ai jamais été dans aucune de mes tentatives. Parce qu'en fait, effectivement, il est quand même férocement drôle. Quand on est dans la vie sociale, la mondaine, etc., je suis à fond. Mais arrivent toujours ces descriptions qui n'en n'en finissent plus et où le livre finit par me tomber des mains. Donc après, j'ai même essayé les audiolibres. Parce qu'il y a une...
Ah oui, franchement, vous avez été volontaire.
Ah non, j'ai persévéré. Parce que je me disais, j'ai envie qu'on puisse en parler, en fait. Donc je vais finir par le lire un jour. Et donc, et il m'avait dit, il y a des parce que lui, il est fan. On a été voir l'expo Proust à Carnavalet et tout. Donc moi, en fait, à la fin, je connais à peu près tout sur la recherche, sauf.
Sans l'avoir lu. Sauf le texte.
Et donc voilà, donc Dussolier qui lit la recherche, ouais. C'est génial. Donc c'est pareil, j'en ai entendu plein de bouts, mais j'ai toujours pas terminé. Voilà.
Bon, merci beaucoup à Amandine Gay, bon courage pour la suite de votre lecture. De vous, en tout cas, on peut lire aux éditions de La Découverte, Vivre libre qui vient de paraître, mais aussi Une poupée en chocolat. De vous, on peut voir aussi votre série sur France Télé Ballroom, Danser pour exister. Allez-y, regardez-la. Et pour lire Le contrat racial de Charles Smith, le texte est disponible aux éditions québécoises Mémoire d'Encrier. C'est la traduction de Ali Ndiaye. Un grand merci à toute l'équipe, Manon Delasselle, Axel Dubois, Nicolas Berger à la réalisation, Cassandre Puel à la lecture des textes et à Mineta Jawara à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.